Un coin de Savoie, de Charles Ferdinand Ramu. Ce n'est pas tout à fait la vraie, c'est celle du bord du lac, et non du grand, mais du petit. De Nyon, on le traverse en 1/4 d'heure, 20 minutes. Et c'est Nermier ou c'est Ivoire, il faut s'enfoncer un peu dans le pays. Point de montagne, sinon beaucoup plus en arrière la chaîne des Voirons, bleuissante déjà, et à l'autre horizon, la ligne du Jura. C'est vallonneux et nu, avec une herbe rare. C'est pierreux, buissonneux. Et c'est encore un peu chez nous, mais avec autre chose. C'est la France, mais en même temps c'est la zone. Alors, ce petit lac, nous le franchissons trop difficilement nos autres Vaudois, nous consentons à aller voir, tout près de nous, ce qui se passe. Et je songe que nous devrions pourtant avoir le souvenir que nous fûmes une fois, nous aussi, Savoyards, et que ce sont nos cousins qui sont restés là-bas, en France, qu'il nous faut aller retrouver, parce qu'ils portent souvent les mêmes noms que nous, et bien plus que les Genevois nous ressemblent, lesquels, néanmoins, ont avec eux des relations de bon voisinage, et nous, plus proches parents, pas. Il n'y a ni chemin de fer, ni tramway d'aucune sorte, il n'y a qu'un courrier, avec un char à banc. 3 places sur le siège, 1 pour lui, 2 pour les voyageurs, qui sont d'ailleurs rares, et les 2 places suffisent. Derrière, les paquets, les colis et les malles. La forme du ciel est jolie sur le clocher d'argent qui brille avec des tons rouillés d'or brun, au sommet de sa tour carrée, et autour sont les poiriers ronds. Le village est éparpillé le long de la route, tout le temps des espaces vides, puis une maison, puis une autre, puis une suite de maisons. Elles sont vaudoises en partie, beaucoup portant au fait les boules en fer blanc côtelées, d'autres proprement savoyardes, avec leurs tuiles bombées qui débordent le toit et leurs 2 rampes d'escalier symétriques sur le devant. Il y en a aussi plusieurs d'abandonnées. Voilà qui est de France, et c'est aussi la France et le canton de Vaud qu'on trouve à chaque pas mêlés. L'auberge est sur la place, une vraie auberge du vieux temps. La patronne fait elle-même la cuisine. Il y a 5 ou 6 plats à chaque repas. On mange dans la salle à boire, qui a gardé de la dernière vogue 2 grandes guirlandes en papier de soie roses et vertes, qui pendent d'un angle du plafond à l'autre et se croisent au-dessus de la suspension. Et ce n'est pas la triste cuisine internationale de l'hôtel, mais l'ancienne, probe et substantielle, avec les fritures du lac, les poulets de la basse-cour, le jambon du pays, et les fruits du verger, l'honnête graisse, le vrai beurre, et cette épaisse tome savoyarde qui a l'air d'un petit fromage. Il semble qu'on retourne en arrière dans le temps. Il flambe dans la cuisine, un feu clair de bois à flammes léchantes, on entend le bruit des assiettes et des fourchettes de métal. Les 2 chiens rôdent autour des tables, les chats se glissent sous les chaises, et c'est entre toutes les bêtes, assises en rond autour de vous, sur leur derrière, que vous découvrez la soupière fumante, pleine de cette bonne soupe aux légumes, où il y a des fèves, des pois, de la laitue et des gros quartiers de pommes de terre. Je suis tout de suite descendue au lac. Une espèce d'avenue toute droite y mène, entre 2 rangs de beaux ceps en guirlande, comme il y en a partout ici, le long des champs. Une pente douce et égale, ce large chemin herbeux, foulé au milieu seulement, et dans le bas brille le lac. Les arbres sont d'une grande élégance, c'est ce qui frappe au premier coup d'œil, et cela donne au pays un caractère très particulier. Des hauts peupliers, des arbres fruitiers, assez parsemés, très ronds et très réguliers de forme, et surtout ces haies en damier, accentuées de place en place, par des chaînes ébranchées, mais feuillues et épais de troncs, avec tout au bout une boule verte, un pays planté de chandelles. Et les prés vont jusqu'à la rive même, un talus croulant, une étroite grève caillouteuse, quelques trembles par-ci, par-là, et l'eau devient vite profonde. Il y a eu un beau coucher de soleil derrière le Jura qui a tout à coup noirci, et le lac, au contraire, d'abord presque noir, s'est éclairci, il est sorti clair dans l'envahissement de l'ombre. La bise soufflait, les vagues venaient se briser jusque contre la vieille barque à fond plat, dans laquelle j'étais assis, et c'était un plaisir de les voir s'allonger et s'étirer sur le galet avec leurs mille griffes blanches. Il a fait un petit peu froid. Je suis remonté à la nuit. Les champs étaient déserts et le village aussi. Aucun bruit, on ne voyait personne. Ce matin seulement la place est animée. Beaucoup d'enfants qui pleurent et de femmes qui crient. Les bœufs passent, accouplés et pensifs sous le joug. On entend l'horloge. C'est une grosse horloge toussante comme celle de chez nous. Toujours elles sont ainsi enrhumées, au courant d'air dans leurs clochers. C'est un pays sans eau. Le village est sur une crête, avec une pente qui descend au lac, et l'autre s'en va vers Douvaine. Ils n'ont que des puits. Le puits de l'auberge est juste à côté d'une espèce de guérite en planches mal jointe, sur la porte de laquelle on a poliment tracé au pinceau ce simple mot « Dame ». Le patron me dit ce matin que le village est en train de se dépeupler complètement et que depuis 20 ans, plus du quart des habitants sont partis. Ils s'en vont dans les grandes villes, à Paris principalement, et, une fois loin, ne reviennent plus. Un tiers du pays est inculte, un autre tiers mal cultivé, le troisième tiers seul est mis en valeur. Le patron exagère peut-être, mais il y a en tout cas beaucoup de maisons fermées. Il y a cette ruine sur beaucoup de maisons. On ne trouve pas à les vendre, si bas que soit le prix. On les laisse ainsi se ruiner. Le mal est partout le même, mais il paraît ici, de par les circonstances, plus grand et plus profond qu'ailleurs. Le pays est isolé, sans déboucher, et on sent tout autour cette tentation comme visible, le soir, aux lumières qui parsèment la côte, de contrées plus actives, sillonnées de chemins de fer. On devine là-bas une vie, non pas, certes, plus douce, mais plus diverse, avec toutes les chances que le mot comporte. On espère y devenir. Un jeune homme de 18 ans, intelligent et débrouillard, répugne d'instinct à l'existence sans imprévu qui l'attend, s'il reste au village. L'instruction primaire, telle qu'elle se donne aujourd'hui, lui a, comme on dit, ouvert des horizons. Je ne dis même pas qu'il cherche à s'amuser. Il faut juger impartialement cet état d'esprit. Il ne contient pas que du bas, on veut trouver à utiliser toutes ses facultés. La culture que donne l'école n'est pas assez forte pour qu'on s'aperçoive qu'il est possible de les utiliser partout. Elle s'arrête à l'extérieur, elle voit les gestes, non leur sens, ni leur beauté. Elle les voit uniformes, et cette uniformité lui répugne. Et puis l'argent est d'une telle séduction. Au village, quoi qu'on fasse, il ne viendra que lentement. La fortune y a l'allure des gros bœufs sur les routes, et alors on veut tout ou rien. On s'en va un beau jour et on ne revient plus. En Valais, on s'en allait bien. Mais on revenait. Les habitudes étaient plus fortes, la discipline plus grande. Voilà un des bienfaits de la religion. Il n'y en a plus guère ici, du moins il semble à première vue. Quoique l'église dresse toujours fièrement au milieu du village, et très haut sur les champs, son haut clocher carré et ses grandes murs de pierre nue. Mais autour il y a le vide, et la grille de la cure est rouillée, et l'herbe envahit le chemin. Et c'est un angélus mélancolique qui tombe, sans chapeau soulevé et sans signe de croix. Céline. Elle a mal aux dents, elle a un bandeau autour de la tête. Je ne l'ai vue encore qu'avec sa joue enflée, mais on devine qu'elle est jolie. Courte, mais souple et bien proportionnée, avec des yeux brillants, très noirs, et un teint de santé et des très petits pieds. Elle est d'une race assez fine. Elle est intelligente et gaie, avec de la réserve. Elle observe et calcule, on voit qu'elle distingue vite à qui elle a affaire et sait se conduire en conséquence. Elle a, au fond, un tout petit peu peur qu'on ne la prenne pour une paysanne bornée, quoiqu'elle ne soit pas du tout demoiselle. Très catholique avec cela d'allure, et pourtant pas bigote du tout, du moins j'en ai l'idée. Une petite fille un peu émancipée, avec du bon sens, et puis surtout de l'amour-propre. Elle veut aller chez le dentiste. Elle a promis de faire arracher sa dent. Et comme je lui demande à qui elle a promis, « Oh, à moi !» dit-elle, « et ça suffit. » Je retourne au lac. On y est en moins de 5 minutes et il arrive étrangement. tout le long de la rive, de gros blocs de granit à fleurs, et on ne les devine qu'aux remous qui se forment à leur extrémité quand les vagues arrivent. Ces lentes vagues en ligne parallèle des bateaux à vapeur, ce sont les seules de ces calmes journées, sourdement chaudes et un peu brumeuses déjà, et d'automne. Le soleil regarde, par moments, à une petite lucarne là-haut, puis se recache, et voilà, c'est un peu un ver d'eau, ce petit lac, qu'il soit tellement remué, et jusque dans ses fonds et ses dessous, par ses roues mollement battantes dont le bruit se distingue à peine, et meurt peu à peu, tout là-bas. On a un peu honte pour lui. On pense aux grandes mers, à l'agitation des vastes Atlantiques, même à ce cours puissant de certains fleuves africains. Et ici, c'est si mort, c'est si étroit, si mesuré. En tout, une mesure. Au ciel et sur la terre, dans l'ondulation des champs, la grande basse du Jura et la force des vents au ciel. Et les vagues aussi mesurées, même par les plus mauvais temps, parce qu'il n'y a pas de place pour l'élan, et à peine en carrière, il se brise et retombe. Je les regarde venir, dans ce gris nuancé d'argent qu'elles ont sous le ciel brumeux, rondes parfaitement et en ligne bien parallèles. Elles semblent ne point bouger, tellement elles gardent entre elles leur distance, et avancent toutes ensemble, et viennent tour à tour se heurter au rivage. Alors on dirait qu'elles font effort, et, se haussant soudain, se lancent en avant et s'éparpillent en écume. Il n'y a pas ici ce petit bruit d'avidité du sable brûlant qui a soif. C'est un claquement sec. On bat à la batteuse mécanique dans la maison d'en face. Tout le monde est au travail. C'est un travail qui donne soif. Comme dit Céline, ils sont sous pendant 8 jours quand ils ont été battre. Et comme on va céder chez les voisins pour que les voisins, à leur tour, viennent céder chez vous, c'est tout un mois de soûlerie. L'air est plein de l'odeur âcre et fermentée de la poussière qui monte en tourbillon et se répand partout. Et sur le tas de paille qui grandit tout le temps, des tas d'enfants, mêlés aux chiens, se roulent. Midi. La machine à battre vient de repartir. La paille déborde de la grange et jusqu'au milieu de la place, en un énorme tas hérissé et poudreux, où le haut de la porte ronde seulement apparaît. Il n'y a même plus de chemin jusqu'à elle, tellement cet ouvrage mécanique est fiévreux. Il dépasse en rapidité le travail de main d'homme qui ne peut le suivre, et renonce et revient ensuite à ce grand désordre, jusqu'à ce que l'ordre se fasse. Mais, en attendant, cela fait penser à quelques pillages, comme au temps des invasions et des grandes guerres du Premier Empire, quand une troupe aux chevaux affamés se ruait sur les fourrages et la paille pour les litières, et mettait à sac un village, et disparaissait le lendemain. Il arrive, en ce moment, 3 curés dans un char de chasse. 2 sont gros et courts, et sans doute rouges de teint, mais je ne les vois que de dos, avec des chapeaux de paille noire et des redingotes. Le 3e est maigre et porte un melon. Celui qui conduit est un homme énergique. Je l'entends qui donne ses ordres aux garçons d'écurie. Il se sent chez lui. 2 litres d'avoine. Oh, n'ayez pas peur, parlant du cheval. Il n'est pas méchant. Une voix un peu grosse, mais forte et bien timbrée, et qui n'hésite point. La voix d'un médecin de campagne depuis longtemps dans le pays. Ils ont mangé et bu comme des curés de Rabelais. Ils ne parlaient guère, ils n'avaient pas le temps. Mais par moments, à un mot qu'on ne comprenait pas, ils éclataient tous d'un gros rire qui remplissait la salle à boire. Ils ont commandé à la fois du blanc et du rouge. Ils ont pris 2 ou 3 espèces de liqueur avec le café. Même le petit maigre à lunettes s'est mis au pas et buvait comme les autres. Puis on est venu les avertir que la voiture était attelée. Et ils sont brusquement repartis sans avoir le temps de finir leur cigare. Ils ont laissé fumant sur le rebord de la fenêtre. J'irai tout simplement, ainsi, de jour en jour, dans le très ordinaire et le très journalier, avec ce même bruit de gros bourdon de la batteuse, ces cris d'enfants, ces voix de femmes, et ces pompes qui grincent aux heures des repas. Il n'y a à noter que les heures qui passent, pourtant on sent qu'on vit profond. Il y a une grande douceur dans les petites filles, celles qui ont des bonnets plats et des joues bien rondes et rouges. Les vieilles ont aussi de bonnets plats, elles ont la paix dans le cœur. Et les petites filles rient, et les vieilles sont à causer, tout le jour, sur la place blanche, ou bien se tiennent assises dans l'ombre des portes, et c'est le ciel tout rose de 7 heures du soir. Le temps où la soupe est sur le feu, et toutes les cheminées fument, on voit les fumées dévidées comme des écheveaux au-dessus de la ligne bien égale des toits, laquelle noircit peu à peu, et la fatigue est dans les épaules des hommes. C'est pourquoi ils les laissent aller en avant, et rentrent lourdement, se tirant de la main sur le banc serré à la table, et s'accoudent devant l'assiette, et un long moment restent sans parler. On ne lit guère que le petit journal, mais on le lit d'un bout à l'autre, et on y croit comme à la Bible. Peu de feuilles locales, on est renseigné sur tout de Paris, et ces histoires de grandes villes, assassinats, meurtres et viols, s'agitent bizarrement au fond des cervelles. Le journal et la caserne, on ne sait pas assez quelle influence ils ont sur toute la population mâle. Parmi les garçons qui viennent à l'auberge, il y a 2 types distincts, le grand blond cuirassier ou dragon et le petit brun fantassin. Et chacun de ces types a ses allures à soi qu'on reconnaît de loin, et ils sont marqués pour la vie. Le mariage peut venir, ils recouvrent, sans transformer. Ils donnent d'autres habitudes, ils ne détruisent pas les anciennes. Et ce même pour les journaux, c'est une façon de penser, c'est une conception de la vie qu'ils imposent. Ils agrandissent le monde par les nouvelles qu'ils en apportent, mais qui ne sont point contrôlées, parmi quoi on ne choisit pas. Alors l'imagination aidant, l'esprit tout entier est faussé. L'autre soir, comme je passais dans le village, un petit vieux barbu m'a arrêté. Il n'était pas à jeun, c'est vrai, mais ce que le vin fait paraître au dehors, c'est l'essentiel de nous-mêmes et ce que nous cachons, en sorte qu'il étonne, mais il n'invente pas. Il a dit comme ça, « Vous avez lu l'histoire ? L'histoire des pâtiers qui avaient acheté un wagon de chiffon, c'était dans le petit journal. » Et comme j'ai l'air de ne pas savoir de quoi il s'agit, il ouvre la bouche de surprise. « Ils ont trouvé dedans 1 500 000 francs, 1 500 000, et rien que la peine de le ramasser. » On sent qu'il a rêvé longtemps après ce million qui le hante et qu'il voit danser en rêve devant lui. Et c'est un vieux, il est un peu saoul, mais, à passer de lui aux autres, le fond peut-être changerait, le ton resterait le même. C'est une autre vie qu'ils devinent là-bas. Sans le savoir, ils y aspirent, comme d'un état inférieur à un état supérieur, et de là au mécontentement, il n'y a qu'un pas, et qui est vite fait. Le petit vieux qu'on appelle le père Antoine. Il a un béret. Beaucoup d'hommes, surtout parmi ceux qui sont sortis, portent ici des bérets. Il n'y a plus de lignes dans sa figure, tant elle est mangée et rongée par les rides et les plis. Il a été blessé dans la guerre de 70, et le gouvernement lui sert une pension de 600 francs par an, 150 francs par trimestre. Il va chercher son trimestre à Douvaines, et, revenu, quand il revient et ne s'égare pas en route, s'installe à la table du fond dont il ne bouge plus. Il est là, à 8 heures du matin, quand j'arrive, attablé déjà devant son demi. Il y est encore le soir quand je viens souper, et cela dure ce que dure l'argent. Il couche à l'écurie. 2 fois par jour, il se fait servir une ration de pain et de fromage. Le reste du temps, il boit, et paie à boire, car il est généreux, et est toujours très entouré. Les garçons viennent, qui profitent, les hommes ont plus de fierté. C'est les garçons qui viennent, et des tout jeunes qui plaisantent et essaient de le faire parler. Mais il ne parle guère, et ce qu'il dit, on le comprend à peine, tant sa langue est embarrassée. Il est fermé à tout, sauf à ce goût du vin dont il a besoin comme du pain et de l'air, et plus que du pain et de l'air. Le vin vient avant tout, c'est sa seule nécessité. Il ne possède rien au monde que les habits qu'il a sur le corps. Il est dans le pays parce que c'est là qu'il touche sa pension. Mais le jour où il le faudrait, il s'en irait à l'autre bout de la France, sans même s'en apercevoir. Car que lui font les astres, l'apparence du ciel, la nature des champs et le parler des hommes? Toutes choses qui nous sont chères, à nous, et autant que la vie. Mais il en est pour toujours détaché. Il est scellé dans son silence, et une inaction du dedans qu'éveille seulement la saveur acide du verre qu'il lève est vide d'un trait. et cela se lit à ses yeux fermés, aux paupières lourdes qui battent et essaient de se soulever, mais pour retomber aussitôt. Alors c'est midi. Avec le vol des guêpes et le bourdonnement des mouches autour des taches de vin rouge sur la nappe en toile cirée, et l'auberge est abandonnée parce que tout le monde est allé dîner. Il est seul. Il se met à chanter. Il ne sait qu'une phrase d'une chanson ancienne qu'on ne reconnaît même pas, tellement sa voix est fausse. Il n'arrive même pas au bout de sa phrase et il retombe à son silence. Puis, de nouveau, dit son bout de chanson. L'après-midi s'avance, il continue de boire, et plus il boit, plus il est gai, et plus souvent revient le petit bout de chanson. Il n'a pas besoin qu'on l'écoute. Il chante pour lui seul, parce qu'il est gai. Quelquefois, on le blague. Alors il se fâche, mais déjà il a oublié qu'il s'est fâché. Et à présent, la salle à boire est pleine, avec un bruit de voix qui va tout le temps grandissant, le tapage des gros souliers, le raclement des chaises et des pieds sous les tables. De moment en moment, sa voix fêlée et rauque monte, tout de suite étouffée, mais il ne se décourage pas. L'autre soir, quand l'auberge a fermé, on a dû le mettre à la porte. Il y avait un grand clair de lune. Il est resté debout au milieu de la place, ayant oublié son chemin. Et par moments, son petit bout de chanson m'arrivait, toujours plus écourté, toujours plus incompréhensible. Puis il a appelé en réclamant sa paille. Et, entre chaque appel, il recommençait sa chanson. À la fin, quelqu'un est venu, qui l'a mené à l'écurie. J'ai entendu le bruit d'une discussion. Il m'a semblé comprendre qu'il demandait de la paille fraîche, que l'autre ne voulait pas lui donner. Mais n'importe, car l'autre a eu bientôt le dessus, et le vieux a cédé, et la porte au-dessous de ma chambre s'est ouverte, et je l'ai entendu se laisser tomber sur sa litière avec un gros soupir de fatigue et un bâillement. Puis il y a eu un dernier essai de chanson, sur quoi le grand sommeil du village est venu sur elle aussi, la petite chanson des vieux qui ne sont plus que posés au bord de la vie, et trompent ainsi le reste de jour, non plus vécu, mais seulement rêvé. Le silence des nuits met d'un grand poids ici. J'y cherche vainement la voix des fontaines, ces longues histoires qu'elles racontent pour elles toutes seules, et qui ne veulent plus finir, quand rien ne leur répond que le tintement des chaînes des vaches à l'écurie et le battement étouffé des sabots du cheval. Ici, c'est un grand vide sous le ciel plein d'étoiles. Le vent s'est tu. Parfois une souris court au plafond, ou le lit craque, mais c'est des bruits intermittents. Il ne parle pas au cœur. Tandis que rien ne parle mieux au cœur que cette voix des eaux courantes, avec une inflexion, avec une cadence, avec comme des retours de phrases, des élans, des hésitations. C'est un sec pays de citernes. Elles sont tristes, les citernes, avec leur couvercle de tôle. On le lève, on voit un trou noir, dedans une eau morte trop lisse où glissent les araignées d'eau, parfois un crapaud solitaire qui se met à chanter le soir, auprès les cuves à lessive, et péniblement il faut plonger les seaux et les tirer dehors d'un rude mouvement d'épaule, tandis qu'ils ruissellent et font des traînées sur la terre sèche qui boit. Ils disent septante et nonante, mais ils ne disent pas huitante. C'est une nuance d'avec chez nous, et elle est amusante. Et amusant aussi le mot de Céline, à qui je demande ses renseignements et qui me répond « C'est que septante, c'est joli, tandis que huitante, c'est laid. Quand je vais à Nyon, ça m'ennuie toujours de les entendre dire huitante. » Je pense aux logiciens et aux logiciens de la langue, car il y en a là comme ailleurs. L'accent n'est plus tout à fait le nôtre. D'ailleurs, il est difficile à distinguer, n'étant pas homogène, comme dans le canton de Vaud. On sent bien, jusqu'à ses extrémités, que la France est un pays centralisé. Les provinces n'y ont plus de vie propre. Elles se mélangent et, pour ainsi dire, s'entrecroisent. Il y a bien un accent local, mais altéré sans cesse par les déplacements, les frottements et les contacts. Ici, surtout, où beaucoup de natifs ont couru le monde. Il faut démêler tout cela avant de trouver le fond particulier. L'indépendance politique comme nous l'avons, en une certaine mesure, sauvegarde seul l'usage. Ils n'ont plus, à proprement parler, de patois. Ils parlent un français patoisé, que j'arrive à comprendre quand je m'y applique. Ils ajoutent aux mots proprement français les terminaisons du patois, et ainsi, avec un jeu de suffixes, ils en sont arrivés à se forger une sorte d'idiome qui peut tromper, mais pas longtemps. C'est une langue corrompue, nullement la traditionnelle, dont quelques vieux pourtant se servent encore, et là peut-être retrouverait-on quelques-unes de nos formes et un peu de nos inflexions. Si bien que le patron, qui aime à paraître renseigné, me semble exagérer beaucoup quand il m'assure que, du canton de Vaud à la Drôme, le patois est presque le même et que lui, le patron, peut se faire entendre partout. Toutefois, beaucoup de nos mots sont ici d'usage courant. Frette, boile, enchamplé, nande, coterne, aquet, pouet et bien d'autres encore. Il y a peu d'enfants. Le patron donne le bon exemple. Il en a 6 à lui tout seul, mais il est seul à le donner. Dans le reste des familles, on s'en tient à 2 ou 3, moins encore, si possible, parmi lesquels beaucoup s'en vont. Le village, qui comptait, à ce qu'on me dit, il y a 15 ans, 600 habitants, n'en compte plus que 400. Alors, à ce peu d'enfants, ils sont attachés d'autant plus que l'espèce en fait rare. Et toute la vie du village, toute celle que je vois, du moins, tourne autour d'eux. Tout le jour, sur la place, c'est une troupe de gamins qui se roulent, courent, se battent, crient, pleurent et vont se plaindre à la maman. Et aussitôt la maman sort, très en colère, et une autre maman de la maison d'en face, et les disputes commencent. Il semble bien que tout le village soit à peu près brouillé à cause de ces rien du tout de petits bonshommes de 4 à 10 ans, tous plus rapporteurs les uns que les autres, et menteurs comme on ne l'est que dans l'âge de l'innocence. C'est un petit peu de Paris que je retrouve ici. Je me rappelle les trottoirs du dimanche de la rue Froidevaux et les ménagères du quartier veillant sur leur progéniture. Des mères poules, y compris la sottise. La peur du satyre jusqu'au ridicule. On ne regardait pas, en passant, des petites filles jouer à la balle sans courir le risque d'un mauvais parti. Ici, je m'accroche à ma page pour ne pas en être arrachée, tant cette marmaille est bruyante. Et la tante Justine gronde, qui n'est pas moins criarde et prodigue de paroles. Et puis c'est le tour de la femme au patron, quoiqu'elle soit très occupée et aussi plus douce d'humeur. Et puis c'est le patron lui-même, parce qu'Arthur a mordu au doigt son frère Florent. Alors fessé, hurlement, bagarre, cotère, commentaire des voisines, protestation, prise de bec, et ainsi du matin au soir. Et j'admire la lenteur et la noblesse des grands beurroux qui passent accouplés sous le joug, et leurs belles démarches balancées et prudentes, tandis que dans leurs yeux il y a tant d'indifférence, avec leurs bleus regards tournés vers le dedans. Pour la 10e fois, je relis ce beau livre 3 des Confessions. Il s'associe dans mon esprit exactement au paysage. C'est la même rareté du motif, la même simplicité du détail, les mêmes grandes lignes calmes. Et je n'analyse pas plus loin. Je me laisse aller à ce charme, sans rechercher pourquoi telle période me rappelle le dessin de la grève blanche, ourlée de gris en transparence, et si mollement flottante, et d'un si souple contour. Il y a peut-être chez nous un peu trop de richesse, quelque chose d'un peu trop gras et nourri, quelque chose de plus en dehors aussi. Ici, l'aspect est plus sobre et le sens plus renfermé. De Beausset, où je me suis à peine arrêté, j'ai suivi Jean-Jacques jusqu'à Annecy. Je le veux voir à la campagne, non à la ville. Et Annecy est au bord d'un petit lac qui doit ressembler à ce bout étranglé d'une autre. Elle avait un air caressant et tendre, un regard très doux, une bouche à la mesure de la mienne. Ces phrases chantent comme les 12 vagues de midi sur la rive. Et voici encore l'aventure des 2 demoiselles à cheval. La terre, dans sa plus grande parure, était couverte d'herbes et de fleurs. Les rossignols, presque à la fin de leur ramage, semblaient se plaire à le renforcer. Tous les oiseaux, faisant en concert leurs adieux au printemps, chantaient la naissance d'un beau jour d'été. Après le dîner, nous fîmes une économie. Au lieu de prendre le café qui nous restait du déjeuner, Nous le gardâmes pour le goûter avec de la crème et des gâteaux qu'elles avaient apportés. Et pour tenir notre appétit en haleine, nous allâmes dans le verger achever notre dessert avec des cerises. Je montai sur l'arbre et je leur en jetai des bouquets dont elles me rendaient les noyaux à travers les branches. Une fois Mademoiselle Galet, avançant son tablier et reculant la tête, se présentait si bien et je visais si juste que je lui fis tomber un bouquet dans le sein. Et de rire, je me disais en moi-même que mes lèvres ne sont-elles des cerises, comme je les leur jetterais de bon cœur. Y a-t-il rien de raisonnable dans ces rapprochements que nous faisons, presque malgré nous, mais de quel jour vif ils éclairent soudain, au fond de nous, nos sentiments, quelle vie ils leur donnent et comme ils les renforcent, comme ils les font se dresser de la demi-mort où ils sont tombés, les appelant à la lumière, avant, hélas, qu'ils redescendent à l'ombre, car c'est ainsi que notre vie est tout le temps de monter et descendre, et on ne peut rien à cela. J'avais cru les gens du village plus indifférents à la religion qu'ils ne l'étaient en réalité. On me raconte aujourd'hui qu'ils se sont opposés résolument, quoique sans violence, à l'inventaire de l'église. Il y avait une foule compacte devant la porte. Quand le percepteur apparut, elle n'a point bougé. Impossible d'entrer sans user de la force. Comme la caserne la plus proche est celle de Tonon, qui est bien à 15 kilomètres, on a renoncé à faire avancer la troupe. Le gouvernement, qui n'est point fier, a recouru une fois de plus à la ruse. La surveillance devait finir par se relâcher. Il a guetté l'occasion. Un beau matin, au lever du soleil, quand tout le monde était au champ, la porte de l'église a été forcée. Céline me raconte tout cela et le déplore. Elle a été à l'école des sœurs, et les sœurs sont loin maintenant. On les aimait bien. J'ai vu leur petite maison close, avec un jardin sur le devant. Et dans le jardin, un oratoire à la Sainte Vierge, avec l'image de la Sainte Vierge, sous verre, devant quoi les petites filles de l'école venaient prier. « Oh, en ce temps, continue Céline, je priais beaucoup, 5 ou 6 fois par matin, à présent une fois par jour, et encore. » Et devant l'oratoire, les branches des buissons se sont enchevêtrées. Pourtant, on va encore à la messe. Plus beaucoup d'hommes, c'est vrai, mais les femmes en grand nombre. Il y a très peu d'enterrements civils. Le curé, si c'est lui, a eu une idée très ingénieuse et en même temps très charitable. Pour éviter les conflits qui se sont produits ailleurs, au lieu de bénir d'une fois tout le cimetière, comme on faisait auparavant, en sorte que ceux qui mouraient hors de Dieu n'y avaient droit théologiquement à aucune place, il bénit à présent chaque tombe séparément. Rien n'est donc plus facile que de se passer de lui. La seule différence est que la tombe n'est point bénite. Quand les femmes prient encore, rien n'est perdu. Elles ont, quoi qu'elles puissent dire, tant de puissance. On ne le voit pas, peut-être. Leur force n'est pas du dehors. C'est par-dessous qu'elles s'exercent. Elles peuvent peu de choses contre l'homme robuste qui travaille et fait sa journée. Tombe-t-il malade? Les voilà maîtresses. Et auprès des faibles, auprès des enfants, si elles exigent le curé à leur mariage, quelle fiancée ne céderait? Et les vieilles savoyardes, au bon éplat, prient toujours. Quant aux hommes, ils sont surtout prudents, et on ne sait pas au fond ce qu'ils pensent. C'est la nature fermée du paysan qui se méfie et ne se livre guère, sinon entre amis et le vin aidant. Pour l'ordinaire, ils se taisent, ou, s'ils parlent, c'est pour ne rien dire. Il en est de même de leurs actes, qui sont avant tout mesurés, parce qu'eux aussi, et plus facilement encore que les mots, pourraient les trahir. S'ils vont à la messe, ils ont des excuses. S'ils n'y vont pas, ils ont des prétextes. Je ne parle pas, bien entendu, de cette toute petite minorité d'intransigeants qu'il y a partout. Je parle de la masse, et elle seule importe. Et je l'imagine plutôt au-dedans, détachée qu'hostile et facilement rattachable, ici du moins les circonstances s'y prêtant. Détachée parce que la foi, en s'en allant, et les superstitions aussi, ne le permettent plus de croire à l'intervention directe des puissances divines dans leur vie, et qu'alors, avec leur sens pratique et immédiat des choses, ils s'en sont détournés pour du plus visible et du plus certain. Sympathique toutefois à ces croyances, d'abord par tradition, ensuite parce qu'il y a là, malgré tout, comme une réserve, une aide en réserve, un secours possible, aux mauvaises heures. Quand tous les plaisirs du monde et les gains du monde et ses pompes sont déjà loin derrière nous, et devant nous il n'y a qu'un grand vide, et ils ont peur devant ce vide. » La personnalité du curé est presque tout dans ces cas-là. S'il sait intervenir au bon moment et avec tact, il retourne les âmes. On se moque d'un garçon qui va régulièrement à la messe. On le blâmerait de se passer du bon Dieu à son lit de mort. En attendant, le curé vit assez à son aise de contributions volontaires dans l'ancienne cure, qui est une grande vieille maison confortable et que la municipalité lui loue 60 francs par an. C'est à peu près la même chose en politique. Là non plus, les groupements ne correspondent à rien de précis. Suisses et Français à la fois, économiquement, par la zone, on ne voit pas que cette situation particulière ait rien changé à des habitudes que 40 ans de surenchère électorale ont imposées d'un bout à l'autre de la France. Aucune idée, bien entendu. Qu'il y ait quelque part, dans un vaste palais public, comme ça s'appelle, un monsieur Loubet ou un monsieur Falière, voilà qui leur est bien égal. Ce qu'ils savent seulement, c'est qu'ils paient le dit personnage 500 000 francs par an, d'où de l'irritation, et un président, pour cette raison, ne sera jamais populaire. On le paie et on n'a rien à attendre de lui. Il n'en va pas de même avec le député. Celui-ci a dans sa main des bénéfices de toutes sortes. Il s'agira d'élire l'homme le plus adroit et le plus influent. Il vaudrait mieux dire d'un mot le plus roublard. Là autour, les partis s'agitent, avec tous les noms qu'on voudra. Les noms ne signifient rien. Affaire d'habitude, de relations, d'éducation. Le candidat député fait sa tournée, paie à boire et rallie ses amis à coups de promesses, avec du tact et du doigté, un peu d'éloquence aussi, si le mot n'est pas trop gros, et surtout le concours dévoué de l'aubergiste, de l'instituteur et du buraliste postal. Les professions de foi deviennent inutiles. Elles ne sont plus que de parades et l'étiquette d'occasion. Il y a là-dessous des réalités meilleures. L'imprécision est dans les esprits, elle n'est pas dans les choses mêmes. On va naturellement à celui dont on peut espérer le plus. Et alors, une fois élu, le jeu du député n'est plus que d'équilibre, si on peut dire. Il consiste à ne mécontenter personne, ou à mécontenter tout le monde également. Ne pas faire de jaloux, tel est le premier article du programme. Et s'il faut sacrifier absolument quelqu'un, sacrifier le plus faible, au profit du plus fort. Ces choses-là ne tiennent pas au régime. Elles sont de l'homme, même. Elles ont toujours existé, et elles existeront toujours. On ne changera pas la nature humaine en rétablissant le trône et l'autel. Le paysan, ici comme ailleurs, n'a qu'un désir, en tant que citoyen, payer d'impôts le moins possible. Et pour lui, le régime qui arriverait à les supprimer complètement sera toujours le meilleur. Il y a deux vieux, dans une petite maison proprette, peinte en jaune, avec une vigne du Canada et une belle sonnette en cuivre. Je les observe de ma fenêtre. Aujourd'hui, le cheminot a passé. C'est le pauvre chez le riche. Le cheminot est arrivé vers les midis avec sa femme. Elle est allée s'asseoir sur un tas de bois. Il pleut sur elle. Elle ne bouge pas. Elle est là, la tête penchée, les mains dans le creux de sa jupe. Elle attend. Elle ne sait rien faire d'autre dans la vie. Elle est tellement immobile qu'elle semble une grosse pierre. Il pleut dessus. Lui est gros et voûté, avec des haillons gris et un chapeau pointu et un bâton blanc à la main. Il n'a point de besace, mais ses poches font des bosses des deux côtés de son habit. Il est allé vers la maison du riche. C'est elle qui l'a distingué du premier coup d'œil sur la place, et la sonnette brille là-bas comme un soleil. Il y a une poignée au bas de la sonnette, et derrière la poignée une plaque, et cela brille. Il va tout d'abord à ce qui brille. Il a traversé prudemment la place, et s'est approché en biaisant, et puis s'est arrêté, et s'est de nouveau un peu avancé, et puis a biaisé de nouveau, mais dans l'autre sens, comme font les barques quand elles louvoient. Puis enfin, il est arrivé. Alors il s'est aperçu que la porte était entr'ouverte, et une question s'est posée en lui, s'il sonnerait ou non, puisque la porte était ouverte. C'est pourquoi il est resté un bon moment devant sans remuer, et le résultat de son raisonnement a été qu'il ne sonnerait pas. Il n'est pas poli de sonner quand les portes sont ouvertes. Il a poussé la porte d'un mouvement brusque, et il est entré tout droit. Il était beau, entrant ainsi. Il s'était redressé. Il n'a pas ôté son chapeau et il s'est enfoncé dans l'ombre. Que s'est-il passé ? J'étais à dîner, à peine le temps d'avaler une cuillerée de soupe froide, j'ai relevé les yeux. Il était de nouveau au milieu de la place. Il roulait, là, désemparé. Il tanguait de droite et de gauche. Le vent soufflait, il tournait dans le vent. Et là-bas, sur son tas de bois, la femme n'avait pas bougé. Le pauvre était allé chez le riche. Il y a le riche ainsi dans chaque village. Ici, le riche est un tout vieux. Il vit avec sa toute vieille. Ils sont seuls tout le long du jour. Ils s'occupent à mettre de l'ordre où il y en a déjà beaucoup trop, et à repasser le balai où le balai a trop souvent passé. Ils se ressemblent étrangement, tous deux grands et tous deux voûtés, voûtés de la même manière, du haut du corps seulement et du cou, avec une tête pendante. Ils ont les mêmes petits pas, les mêmes vêtements aussi, à moitié bourgeois, à moitié paysan, les mêmes yeux plissés regardant de côté et la même bouche plissée. Il n'y a plus rien en eux et autour d'eux que sécheresse. L'homme, chaque soir, à la nuit tombante, se glisse dehors et avec une perche chasse les oiseaux de dessous son toit parce qu'ils font des saletés. Je pousse aujourd'hui jusqu'à Coudray. C'est après Ivoire et Aix-Nevex, c'est-à-dire à plus d'une lieue. Et le lac qu'on avait à sa gauche, en partant, on le trouve devant soi quand on arrive, sans avoir changé de direction. Après la pointe d'Ivoire, il s'enfonce ainsi brusquement et profondément dans le pays et presque jusqu'à la montagne. Et il apparaît tout à coup dans sa plus grande largeur, pareil à une mer sous la brume d'automne qui couvre la rive opposée. Tout le caractère du pays est changé. Ce grand vide qui s'ouvre là, cette couleur différente de l'eau, ces pentes qu'on voit monter à présent du rivage même, au lieu des calmes champs presque plats, c'est un nouveau pays, un peu. Pourtant, tout le long du chemin, c'est bien l'ancien pays encore. Pierreux, un peu sec et jauni, avec d'assez rares vergers et beaucoup de poiriers, mais presque point de cerisiers, et les noyers rares aussi. Des talus sablonneux, pas de bois, mais des futaies, beaucoup de haies, une couleur de terre jaune, et les vallonnements du sol semblent continuer le mouvement des vagues, avec leurs replis arrondis et leurs collines allongées. Là-bas, le dos bleu des voies ronds, il y a des labours qui fument, car le soleil est chaud encore, et quatre bœufs blancs tirent la charrue, avec leurs pas pesants et sûrs, et l'homme à côté tenant l'aiguillon, et l'autre aux cornes de la charrue. Et tout cela d'ensemble, et cela remonte lentement le champ, et cela redescendra le champ avec tout autant de lenteur, et ainsi tout le long du jour. Tandis que la bande de chaume entamée diminue sillon à sillon, à part quoi presque personne, des petites filles assises toutes seules au milieu d'un pré qui font des bouquets des premiers colchiques, et je crois que c'est tout. Quand même l'été n'est point fini et les regains loin d'être tous fauchés. Je pense à nos campagnes vaudoises, si populaires et animées. Auprès, c'est ici l'abandon. Et l'abandon est aussi sur les maisons qu'on rencontre, trop petites, sans écurie, un peu des maisons de banlieue. Mais à Coudray, c'est le vrai désert. Là, l'homme renonce tout à fait. Plus que la lande, une des rares au bord du lac, tout un espace de sable, où, seuls, les plantes contentes de peu et celles aux racines profondes ont pu trouver à subsister. Il n'y a plus rien qu'une herbe rugueuse, quelques petits œillets roses, de ceux qu'on appelle œillets de poète, quelques joncs par place et des gros buissons de buis sauvages. Ce sont eux qui donnent à ce coin de terre sa beauté. Ils jaunissent déjà, ils sont très vieux, tordus, avec des troncs noueux et envahis de mousse. L'air sec et poussiéreux des vieux bouquets de mariés. Ils brillent pourtant dans le jour clair, éclatent en jaune sur le fond violet du sable. Ce jaune, ce violet, un ciel tout rond dessus, et là-bas une barre bleue qui est le lac qui sort derrière l'exhaussement des derniers ressauts de la dune, puis en face de soi le mur bas des bois dans l'éloignement. Il suffit de quelques pas pour que tout cela disparaisse. Il y a partout des trous ronds et profonds, creusés dans le sable mobile. C'est en petit comme des chaînes de montagnes, avec des vallées en miniature. qu'on y descende et rien ne reste que le ciel. On n'entend aucun bruit, pas même un cri d'oiseau. C'est la complète solitude. À peine si peu de bise fait par moment pencher les hautes herbes sèches. Elles s'inclinent sans un frémissement et se redressent aussitôt. Cela s'allume et brille avec éclat et dureté. Il n'y a aucune vie. Mais voilà qu'en montant en haut d'une de ces montagnes de sable, le lac apparaît dans son étendue. Et voilà qu'étant apparu, sur ce lac noir de bise, une grande barque vient. Elle rase presque la rive avec ses immenses voiles blanches. On ne distingue aucun effort dans son glissement. Elle ne coupe point les vagues. Il semble qu'elle roule sur des roulettes invisibles. Et elle est noire, avec un œil. Dessus sont des sacs de ciment, recouverts d'une bâche blanche, qui font une masse carrée. Elle est tout entière noire et blanche, et fuit parallèle à la rive, si longue, vue ainsi de près, que la rive est rapetissée. Et personne non plus dessus, où on ne devine personne. Sans doute que les bateliers dorment comme ils font quand les airs sont bons. Alors cette barque, comme abandonnée, ce noir et blanc sur ce bleu foncé, le violet du sable et le jaune des buis, cette solitude, et puis ce silence. Tout cela ensemble prend pour le cœur un air de mystère et d'exceptionnel qui le serre soudain. C'est ainsi que le lac a une grande variété d'aspects. Mais ici, au lieu d'inviter au repos et à la contemplation comme ailleurs, il agite d'une secousse et les donne envie de fuir au lieu de s'attarder. Nos yeux ont besoin de l'habituel. Nous ne participons réellement qu'au spectacle de coutume. Les autres surprennent, et où est la surprise, l'émotion vraie n'a pas de place. Tout le principe de l'art est là. Les paysans d'ailleurs trouvent l'endroit horrible. J'en parle avec un homme qui rentre de faucher et qui me rejoint sur la route. Pour lui, et ils sont tous là-dessus du même avis, beauté se confond avec richesse. Un champ de blé est beau quand il promet une forte récolte, un arbre quand il est chargé de fruits, un coin de terre quand il est fertile. Il ne saurait y avoir aucune beauté dans ces espaces incultes, où personne ne va jamais, sinon pour exploiter le sable. Je réfléchis à cela en revenant sur mes pas vers Ivoire. Je ne trouve point cette idée fausse. Elle est au moins parfaitement précise. Il y a quelque chose d'absolu en elle qui séduit. Il est si rare qu'une idée abstraite se présente à nous autrement qu'inconsistante et fugitive. Et cet égoïsme humain a assez de grandeur, qui ramène tout à lui-même et instinctivement ne veut considérer les choses que sous l'aspect de leur utilité. L'homme qui ne réfléchit pas se sent d'instinct le centre de tout. C'est ce qui fait sa force. Naïvement, il se conduit en maître, et il semble bien alors que la pensée soit une maladie qui fait ainsi surgir autour de nous toute la variété des êtres, parmi quoi nous n'avons qu'une place modeste. Heureux encore quand nous pouvons nous en assigner une. Heureux quand nous pouvons classer et que, de ce grand travail, pour ainsi dire, d'évocation, ne résulte pas que désordre. Il faut s'arrêter à Ivoire. C'est un village fortifié. Tout au bout de sa pointe et dominant le lac, il est étroitement serré encore dans son enceinte disparue. J'entends qu'il n'a point osé en franchir la ligne, à présent fictive, et il est resté embusqué derrière ces deux tours qui défendent ces deux entrées. On s'enfonce sous leur voûte à ogive, et devant soi, c'est la pente raide des petites rues caillouteuses. C'est un dégringolement ramassé de petites maisons à toits aux grosses tuiles jaunes. C'est enfin, dans le bas, le château commandant le port, un gros cube de pierre, avec une terrasse, et sur ses murs guerriers, s'allonge et flotte au vent la pacifique vigne vierge. Un village de belles filles, grandes, larges et fortes, avec une noble démarche, quelque chose de souple, de fier et d'assuré. Les hommes ont des chapeaux rabattus sur les yeux et passent pour mauvaise tête. C'est la race du lac, pêcheurs et bateliers. Et s'ils sont pauvres, ils s'en croient. Et ceux de l'intérieur du pays ont beau les mépriser à cause qu'ils sont pauvres, il y a bien peut-être au fond de ce mépris un peu de jalousie. Aussi, on vit chacun chez soi, et les filles d'Ivoire pourraient être plus belles encore. Un garçon d'un village voisin qui prendrait femme parmi elles serait, comme on dit, mal vu. La nuit vient, les clochers s'éteignent, les hauts chênes ébranchés élèvent sur le ciel tout vert leurs petites boules de feuilles, et elles sont noires, ces boules, sur le ciel encore éclairé. Un incertain reflet au ciel met déjà l'ombre sur la terre. Un angélus tombe et meurt tout là-bas. La chouette crie, des hommes passent à bicyclette, et il y a une cheminée de tuilière qui coupe le lac d'une rive à l'autre avec sa mince barre noire. Conversation politique. Des chasseurs sont arrivés. Ce sont, paraît-il, des bourgeois de Thonon. Ils ont tout ce qu'il faut pour chasser. Des chiens, des carnassières, des fusils de prix, mais point de gibier. Toutefois, ils ont l'air contents. Leur seul soin a été de ne pas traverser le village. Attablés à présent devant une friture de perchettes, la belle humeur a eu vite pris le dessus. Il y a un petit cours à barbiche noire qui parle beaucoup. C'est l'homme écouté de la bande. Il parle haut, avec des gestes. Il prend plaisir à s'entendre parler. Il est question de je ne sais quel fonctionnaire public qui l'avait mécontenté. « Savez-vous ce que j'ai fait ?» continue l'homme à barbiche. « J'ai fait ma tournée. Et j'ai été partout. Je n'ai oublié personne. Et à tous, j'ai raconté l'histoire. Ils ont tous été de mon avis. Ils m'ont tous dit « Basculons-le !» Et vous avez bien vu, aux élections suivantes, c'est comme ça. » Et tout le monde d'approuver. Puis ils passent aux femmes, selon la tradition de tous les bons dîners. Mais je ne les suis plus. Que le petit homme se vante, c'est possible. Je n'en viens pas moins de saisir le mécanisme des élections. Simplifié sans doute, mais dans son naturel. Une tournée, les amis. Une décision prise entre amis. Non une méditation individuelle, mais une conspiration à prévoir. Et quel mobile ? La vengeance. Encore ne s'en cache-t-on pas. Mais le suffrage universel se réduirait-il à cela ? Encore un petit regard vers le clocher. Encore une fois, la porte du cimetière poussée et ce repos des tombes qui est d'un tel enseignement, puis la traversée du village, puis la descente jusqu'au lac, et là, au pied de l'aulne, où il y a une pierre carrée, une dernière fois, la halte près des vagues. Elles viennent toujours avec leur cadence assoupie, tandis que Nyon, sur l'autre rive, brille de ses mille carreaux. Elles viennent et raient de petits raies la surface grise de l'eau. De gros nuages blancs se dressent debout sur le Jura et sur les voirons d'autres qui s'avancent à leur rencontre. Il fait lourd, les mouches bourdonnent. Près du bateau enchaîné au tronc d'un gros tremble, des femmes font la lessive. Et alors midi sonne, avec sa cloche lente, il faut remonter. Le patron paie à boire et offre le café. Plus j'avance vers Évian et plus j'entre dans l'orage. Le fond du lac, du côté de Villeneuve, est d'une couleur ardoisée où tout se confond, les montagnes, l'eau, le ciel et la rive. Et de là progressent vers nous de lourdes nuées bleues qui sont en tromperie à l'œil. On dirait un azur profond, mais il fait sombre, et c'est l'orage. C'est la Dendoche, enveloppée. C'est une ombre compacte sur tout le côté savoyard, tandis que là-bas, Lausanne, encore claire, lui, avec son rivage bas, aucun vent, d'ailleurs, l'immobilité. Il semble que ce soit vers la lumière que nous allons, sortant peu à peu de la nuit, car Lausanne continue à luire, et rien ne change au ciel qu'aucun éclair ne fend encore. Il n'y aura pas d'éclair. Toute cette saison, ainsi, aura été en préparation menaçante qui n'aboutissait pas. Un vol de mouettes sur le bateau, les passagers leur jettent du pain, et elles s'enhardissent jusqu'à frôler la coque, que les plus avancés dépassent à tout moment. Alors elles virent soudain, et comme obéissant à un ordre, vont reprendre leur place tout à la fin de la colonne. J'observe leur vol de tout près. Un petit corps ridicule et gauche, à forme de navette, est très redressé, avec au bout un bec pointu et un tout petit œil hagard. Un petit corps qui semble suspendu en l'air à un fil et qui ne remue pas. Toute la vie et toute la beauté de ce vol est dans les ailes. Il faut voir de quelle manière elles participent à l'air, tout en le surmontant, comment elles se prêtent à lui pour le mieux utiliser, de quelle grâce elles le coupent et l'affrontent. Puis, s'appuyant sur lui comme avec un levier, et ainsi élevées, s'abaissent tout à coup et brusquement obliquent le divise de leur tranchant. Les roues du bateau semblent tourner sur place, tellement la troupe criarde le suit avec facilité. Cela est blanc sur le fond noir, cela est 1000 points qui bougent, s'entrecroisent, montent, descendent, sans jamais de désordre et sans jamais s'entrechoquer. Cela est 1000 points qui sont se déplaçant sans cesse. Et l'un parfois s'abat, et un instant se laisse balloter par les vagues, puis repart en plein ciel. Ici se termine Un coin de Savoie par Charles Ferdinand Ramus, enregistré par Christiane Jehan pour audiocité.net.